Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 3, traduction de Satprem en français, de Sri Aurobindo. Alors, c'est le chant 3, livre 3. La maison de l'esprit et la nouvelle création. Restez une tâche plus prodigieuse encore que tout ce qu'il avait accompli. Il s'est tourné vers cela d'où vient toute existence, attentif à un signe du mystère, qui connaît la vérité insaisie derrière nos pensées et garde le monde dans son regard omnivoyant. Dans le silence impénétrable de son âme, intense, tendue comme une flèche monumentale, solitaire, patient, il était assis comme un espoir incarné, immobile sur un socle de prière. Il cherchait une énergie qui n'est pas née encore sur la terre. L'aide d'une puissance trop grande pour les volontés mortelles. La lumière d'une vérité seulement vue au loin. Maintenant, le consentement de sa source toute-puissante. Mais des hauteurs glacées, nulle voix ne se penchait. Les paupières éternelles restaient closes, nulle ouverture ne venait. Un vide neutre, stérile, oppressé les années. Dans la texture de notre humanité prisonnière, il sentait l'énorme résistance brute, figée de notre base inconsciente et aveugle. Le refus obstiné et muet dans les profondeurs de la vie. Le non ignorant à l'origine des choses. Une coloration voilée avec la nuit survivait même en lui et se cachait à ses propres yeux. Quelque chose encore dans son être physique gardait sa parenté avec l'inconscient d'où il était sorti. Une unité fantôme avec un passé évanoui guettait là amassé comme un trésor dans la vieille carcasse du monde. Secrète, inaperçue, par le mental illuminé et chuchotait en rêve ou dans le subconscient, murmurait encore contre le choix du mental et de l'esprit. Ces éléments perfides se répandaient comme des graines glissantes, espérant faire trébucher et renverser la vérité qui entre, et de vieilles voix idéales, errantes, gémissaient et imploraient l'indulgence des cieux. Pour les gracieuses imperfections de notre terre et les douces faiblesses de notre état mortel, désormais, il voulait découvrir extirper l'élément qui trahit Dieu en lui. Tous les recoins de la nature étaient mis à nu. Toutes ses cryptes et ses coins sombres étaient fouillés par le feu, où des instincts réfugiés et des révoltes informes pouvaient trouver abri dans les sanctuaires de la nuit, contre la blanche pureté de la flamme purificatrice des cieux. Tout semblait avoir péri de ce qui était non divin. Et pourtant, quelques infinitésimales dissidents pouvaient échapper. Quelques centres de la force aveugle pouvaient encore se tapir. Car l'inconscient aussi est infini. Plus on s'obstine à sonder ses abîmes, plus il s'étend, et s'étend indéfiniment. Alors, de crainte que quelques pleurs humains viennent fausser la vérité, il a arraché les racines saignantes du désir et offert aux dieux la place vide. Ainsi a-t-il pu supporter le toucher immaculé. Une dernière et formidable transformation est venue. Son âme était tout étalée comme une grande mer, inondant de ses vagues le mental et le corps. Son être était tout répandu pour embrasser l'univers, unissant le dedans et le dehors pour faire de la vie une harmonie cosmique, un empire du divin immanent. Dans cette prodigieuse universalité, non seulement la nature de son âme et l'essence de son mental contenait chaque âme et chaque mental dans le sien. Mais même la vie de la chair et des nerfs changeait et devenait une même chair et un seul nerf avec tout ce qui vit. Il sentait la joie des autres comme sa joie. Il portait le chagrin des autres comme son chagrin. Immense comme l'océan, sa sympathie universelle supportait le poids de la création, comme la terre supporte le sacrifice de tous les êtres, et vibrer de la paix et de la joie du transcendant caché. Il n'y avait plus ces interminables méandres de la division. La vie devenait l'unité secrète de l'esprit. Toute la nature sentait de nouveau l'unique félicité. Il n'y avait plus ce clivage entre une âme et une autre. Il n'y avait plus de barrière entre le monde et Dieu. Les lignes enfermantes de la forme et de la mémoire étaient brisées. l'écorce mentale était empoignée et arrachée. Elle était dissoute et désormais ne pouvait plus être. La conscience une qui fit le monde était visible. Tout maintenant était luminosité et force. Abolie jusqu'à la moindre trace évanescente, le cercle du petit moi était parti. L'être séparé ne pouvait plus être perçu. Il avait disparu et ne savait plus lui-même. Perdu dans l'immense identité de l'esprit. Sa nature devenait un mouvement du tout, s'explorant lui-même pour trouver tout, que tout était lui. Son âme était un délégué du tout, qui se quittait lui-même pour rejoindre l'un suprême. La formule humaine était transcendée. Le cœur humain qui avait voilé l'inviolable assumait le puissant battement d'un dieu. Sa recherche mentale disparaissait dans la vérité qui sait. Sa vie était une coulée de la vie universelle. Accompli, il se tenait sur l'ultime frontière du monde, attendant l'ascension. Au-delà du monde, attendant la descente qui sauverait le monde. Une splendeur et un symbole enveloppaient la terre. Des épiphanies sereines regardaient et les vastitudes sacrées l'entouraient. Des infinitudes de sagesse était là, et des confins rayonnants se penchaient, intimes et fraternels. Les sens défaillaient de cette prodigieuse brillance, les voix éphémères tombaient dans l'inaudible, et la pensée impuissante sombrait pâle et lourde, comme un dieu fatigué dans les mers mystérieuses. Les robes des conceptions mortelles s'en allaient, laissant nue sa connaissance pour la vision absolue. Le harcèlement du destin cessait et les prompts sans trêve de la nature. Les halètements d'athlètes de la volonté s'étaient tus dans l'immuable paix du Tout-Puissant. Dans son corps, muette et vaste, sa vie gisait donnée et sacrifié, nu, sans mur, sans terreur, il supportait l'immense regard de l'immortalité. Le dernier tressaillement s'est éteint, et subitement, tout est devenu immobile. Un poids qui était l'invisible main du transcendant posée sur ses membres, l'immense sceau de l'esprit. L'infinitude l'a englouti dans une transe sans rivage. Comme l'un qui fait voile vers les rives du mystère, poussé à travers d'énormes océans par le souffle de Dieu, des abîmes dessous, l'inconnu autour, son âme larguée l'aveugle chant des étoiles, l'espace. Loin de tout ce qui fait le monde mesuré, plongeant dans les éternités cachées, elle se retirait des surfaces écumantes du mental. Revenait aux vastitudes muettes en nous dans un sommeil omniscient. Hors de la teinte imparfaite de la parole et de la pensée, par-delà la vue, ultime support de la forme perdue dans les mers profondes de la lumière supraconsciente, ou naviguant dans un néant blanc, centré, seul, dans l'incommensurable vierge. Où par-delà le non-moi et le moi et l'absence de moi, transgressant les rives rêveuses du mental conscient, il est arrivé finalement à sa base éternelle. Sur des hauteurs sans chagrin que nul cri ailé ne trouble, pur et intouché au-dessus du théâtre mortel, s'étale l'air immobile et silencieux de l'esprit. Là, il n'est point de commencement, et là, point de fin. Là se trouve la force stable de tout ce qui bouge. Là, l'ouvrier des âges est en repos. Là, nulle horloge de création ne tourne dans le vide, nulle mécanique géante regardée par une âme. Là ne grince nul tournant fatal de l'énorme rouage. Le mariage du mal et du bien dans une même poitrine, le choc du conflit dans les bras mêmes de l'amour, la dangereuse douleur de l'expérience de la vie dans le grand tripot des valeurs incohérentes et hasardeuses, le péril d'un coup de dé du mental qui jette nos vies comme l'enjeu d'un pari des dieux indifférents, et les lumières et les ombres changeantes des idées qui frappent les surfaces de la conscience et les rêves d'une âme spectatrice, muette, qui crée l'erreur d'un monde à moitié vu, où la connaissance est une ignorance qui cherche, où les pas de la vie sont une série de faux pas sans suite. Ces apparences de détours fortuits, son égale mesure de vrai et de faux, là, dans cet immobile et immuable royaume, ces rouages n'ont nul accès, ni cause, ni droit de vivre. Là règne seulement la puissance hiératique de l'esprit, posé en lui-même pour une silencieuse éternité et sa paix omnisciente et toute puissante. La pensée ne se heurte pas à la pensée, ni la vérité à la vérité. Il n'y a point de guerre du bien contre un bien rival. Il n'y a point de faux pas, ni de vie à demi aveugle, qui passe d'un hasard à un autre, hasard inattendu. Point de souffrance des cœurs contraints de battre dans un corps fabriqué par l'inconscient inerte. Armé du feu occulte invulnérable qui ne s'éteint pas, les gardiens de l'éternité préservent la loi, à jamais stable, sur la gigantesque base de la vérité et sa somptueuse maison sans bornes. Là, dans son repos spirituel muet, la nature transcendante et inaltérable connaît sa source et consent au remuement des millions de mondes impassibles dans un calme perpétuel. Le témoin, cause de tout, support de tout et hors de tout, regarde depuis son inébranlable assise. Un œil immense observe toute chose faite. À part en paix au-dessus des remous de la création, plongé dans les altitudes éternelles, il demeure, défendu en son moi sans rivage, avec pour seul compagnon, l'un omnivoyant. Un mental trop puissant pour être lié par la pensée, une vie trop immense pour le théâtre de l'espace, une âme sans frontières, inconvaincu du temps. Le roi touché à l'extinction de la douleur du monde, il devenait le moi sans naissance qui ne meurt jamais. Il rejoignait les assises de l'infinitude. La solitude première retombait sur le murmure cosmique. Le vieux contact avec les créatures du temps était annulé. La vaste communauté de la nature devenait vide. Toutes choses étaient ramenées à leur semence sans forme. Le monde était silencieux pour une heure cyclique. bien qu'il eût quitté cette nature affligée, elle continuait sous lui ses routines sans nombre. Son énorme théâtre s'enfonçait, défaillait, lointain, comme un rêve sans âme qui avait cessé enfin. Nulle voix ne descendait des hauts silences, personne ne répondait aux solitudes désolées. L'immobilité de la cessation régnait le vaste, le calme immortel d'avant la naissance des dieux. Silencieuse, une force universelle attendait l'ultime décret du transcendant voilé. Alors, soudain, un œil s'est penché vers le bas, telle une mer qui explore ses propres profondeurs. Une unité vivante s'est irradiée depuis ce centre et a relié le roi aux multitudes sans nombre. Une félicité, une lumière, une puissance, une blanche flamme d'amour. Prenez toute chose dans une unique embrasse immense. L'existence découvrait sa vérité sur la poitrine de l'unité, et chacun devenait le moi de tout et l'espace de tout. Les grands rythmes du monde étaient les battements d'une seule âme. Sentir était une découverte de la flamme de Dieu. Penser était une seule harpe de bien des cordes. Toute la vie était un chant de bien des vies rejointes. Car il est bien des mondes, mais le moi est un. Désormais, la semence du cosmos changeait. Elle devenait cette connaissance. Abritée dans une enveloppe de lumière, elle n'avait pas besoin d'une armure d'ignorance. Alors, de la transe de cette prodigieuse embrasse et des battements de cet unique cœur et de la victoire de l'esprit nu, une nouvelle et merveilleuse création s'élevait. D'innombrables infinitudes exultantes, riant immensément d'un bonheur sans mesure, vivaient leur innombrable unité. Des mondes où l'existence est large et sans mur, incarnée impensablement le moi sans égo, le ravissement des énergies souriantes, joignait le temps au sans-temps, tels deux pôle d'une unique joie. De blanches vastitudes apparaissaient où tout est enveloppé en tout. Il n'y avait pas de contraire, pas de parti fracturé. Tout était uni à tous par des liens spirituels et indissolublement lié à l'un. Chacun était unique, mais prenait toutes les vies comme la sienne, et orchestrant les notes de l'infini, reconnaissait l'univers en lui-même. Un splendide centre de tournoiement des infinitudes, poussé jusqu'au zénith de sa hauteur à son ultime élargissement, sentait la divinité de sa propre joie. Des millions de fois répétées dans ces myriades d'autres moi, inlassablement, ce centre embrassé dans son rayon les personnes et les visages de l'impersonnel, comme pour prolonger dans un calcul céleste par une multiplication de ravissements la décimale sans fin de l'éternité. Personne n'était à part. Personne ne vivait pour lui seul. Chacun vivait pour Dieu en lui-même et pour Dieu en tous. Chaque parcelle contenait inexprimablement le tout. Là, l'unité n'était pas liée à la monotonie. Elle prodiguait mille aspects d'elle-même. Son immuable stabilité lumineuse portait sur une invariable base à jamais sûre, comme contraint à une servitude spontanée, les rythmes imprévisibles et toujours changeants. La chorégraphie mystérieuse de la danse apparemment machinale, des immenses forces cosmiques dans leur jardin parfait. Les apparences se rappelaient leur vérité cachée et transmuaient les différences en un jeu souriant de l'unité. Toutes les personnes devenaient des fractions de l'unique, et pourtant toutes étaient le nombre entier, secret de l'existence. Toutes les luttes tournaient en une gracieuse querelle d'amour, dans la ronde harmonieuse d'une sûre embrasse, la joie réconciliante de l'identité donnait une généreuse sécurité à la différence. Sur une ligne frontière où s'affrontaient de périlleux extrêmes, le jeu des jeux se jouait au point de rupture, où le moi se trouvait lui-même en perdant divinement son moi et faisait éclater le suprême délice de l'unité. Dans la plénitude de tendresse en division où se sent la communauté de l'absolu, nulle part il n'y avait un pleur de souffrance. L'expérience courait de point en point de joie. La félicité était la pure vérité impérissable des choses. Toute la nature était une scène consciente de Dieu, une sagesse œuvrée en tout, spontanément mue, spontanément sûre. Une plénitude de lumière sans limite, une authenticité de vérité intuitive, une splendeur et une passion de force créatrice. Infaillible, bondissant de l'éternité, la pensée du moment inspirait l'acte du moment. Un mot, un rire jaillissait de la poitrine du silence. Un rythme de beauté dans le calme de l'espace. Une connaissance dans l'insondable cœur du temps. Tout rencontrait tout. Sans recul ni réserve. L'amour était une intime identité vibrante. Un seul et même ravissement sans brisure. Dans le cœur battant de toute vie lumineuse. Une vision universelle unissante. Une sympathie des nerfs qui répondent aux nerfs. Une oreille qui écoute le son intérieur de la pensée et suit les intentions rythmiques du cœur. Un toucher qui n'a pas besoin de main pour sentir et embrasser. Tels étaient les moyens naturels de la conscience. Un enrichissement de l'intimité des âmes entre elles. Un grand orchestre des pouvoirs spirituels, un diapason des échanges de l'âme, harmonisait une unité profonde et immesurable. Projeté dans ces mondes nouveaux, le roi devenait une étincelle du regard universel. Un poste de la lumière qui habite tout. Une onde sur une unique mer de paix. Son mental répondait à d'innombrables communions de pensées. Ses paroles étaient des syllabes du langage cosmique. Sa vie, un terrain du vaste remuement de l'univers. Il sentait les pas d'un million de volontés, marchant à l'unisson, vers un même but. Comme une rivière qui naît sans cesse et ne connaît pas la mort, pris dans les flots enchantés de ses mille et un courants, frémissant avec chaque remous de son immortelle tendresse. Il sentait ruisseler à travers ses membres, les calmes mouvements d'une félicité sans fin, la joie de myriades qui sont un. Sri Aurobindo. Savitri, livre 3, chant 3. La maison de l'esprit et la nouvelle création. Je remercie avec une gratitude immense Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture. Aujourd'hui, le 2 août 2017. Merci. Auroville Radio, Ganga Lakshmi.